Alors, Saint-Martin, évidemment, on en parle souvent, enfin souvent, presque une fois par an, ça va être la fête de Saint-Martin. J'ai eu beaucoup, beaucoup l'occasion de vous parler de lui. Mais je voudrais peut-être essayer de souligner deux aspects de sa vie que peut-être je n'ai pas souligné avant, qui nous enseignent sur nous-mêmes. Quel est l'intérêt des saints? C'est qu'ils nous enseignent sur la vie spirituelle. Au XVIe siècle, les protestants étaient très irrités par le culte qui existait en Occident vis-à-vis des saints et des reliques. Ils ont dit, bon, tout ça, c'est de l'idolâtrie, ils ont tout cassé. Ils ont détruit les reliques de Saint-Martin, etc. Ils ont tout détruit. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y avait un excès. Il y a des moments où il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'excès. Notre prière, là, d'abord à la Divine Trinité. Les saints, c'est la cour de Dieu, c'est autour, ce n'est pas Dieu. Même la mère de Dieu, ce n'est pas Dieu. Voilà. Il y a parfois des excès. Mais à côté de cela, il nous prouve que l'évangile est possible. Parce que quand on lit l'évangile, on dit c'est impossible, c'est pas pour moi ce plat. Ils disent, ils nous montrent dans leur vie que c'est possible. Vous avez vu dans le livre des Gaules, on lit les vies de saints, je me fais. Leur vie même nous enseigne. L'évangile est possible. Et ils sont souvent des bons conseillers spirituels. Parce qu'ils ont été éprouvés comme nous, ils ont les mêmes épreuves. Mais ils sont passés au-dessus. Il y a deux aspects que je voudrais souligner aujourd'hui. D'abord, on pense en général que les saints étaient par nature extraordinaires, que tout leur était facile, que tout allait de soi, qu'ils ont eu beaucoup de chance. J'ai souvent entendu dire dans ma vie, oh oui, mais toi, tu es chrétien, tu as de la chance. Sous-entendu, tu es tranquille, toi, tu es dans des pantoufles, tu es peinard, tu n'as pas de soucis. C'est complètement imbécile, stupide, crétin, excusez-moi de dire ça. Absolument crétin. Maxime Kovalevski, qui était non seulement un très grand maître de chapelle, mais un grand spirituel, je me souviens qu'il racontait souvent, il disait, être chrétien, c'est être sur un fil au-dessus d'un précipice. Il dit, on peut tomber à droite, on peut tomber à gauche. On n'est retenu que par le fil qui est la grâce de Dieu. Et je trouve que c'était très fort. Être chrétien, c'est souffrir tout le temps. C'est avoir plein d'angoisse. Mais ne pas être désespéré, c'est pas une chose. Mais c'est très dur d'être chrétien. C'est une stupidité de dire, oh, vous avez de la chance d'être chrétien. Alors, on croit souvent que les saints sont des gens extraordinaires, ils ont eu beaucoup de chance. Voilà. La vie de Saint-Martin nous montre que tout ça est faux. Je voudrais souligner deux aspects. Le problème de chance et malchance, et le problème de comment il était dans la vie, pour montrer que ce n'était pas quelqu'un d'extraordinaire. D'abord, c'est un homme qui n'a eu aucune chance. Tout dans sa vie est à l'encontre du fait qu'il devint chrétien. Tout! Il ne faut pas oublier qu'on est au début du IVe siècle. Au début du IVe siècle, il y a très peu de chrétiens dans l'Empire romain. C'est minoritaire. La majorité sont des païens. Alors lui, il naît dans une famille du peuple. Ce n'est pas des grands. Une famille tout à fait populaire. Pas tellement riche. Une famille de gens dont le maître de maison s'est élevé socialement à la force du poignet. Famille de militaires. Vous vous rendez compte, au IVe siècle. On n'a fait que la guerre pendant tout le IVe siècle. Le IIIe siècle n'en est pas mieux. Son père était un simple soldat, il s'est élevé, il est sorti du rang. Il est devenu tribun militaire. C'est l'équivalent d'un colonel de chez nous. Donc, relativement, quelqu'un de relativement important, une légion romaine, ça fait 6 000 hommes. Et il y a un légat qui est un général, et en dessous il y a 5 tribuns militaires qui correspondraient à peu près à des colonels de chez nous. Mais son père, il a fait ça à la force du poignet, parce qu'il était un bon soldat, il n'est pas allé à l'école, il n'a pas fait Saint-Cyr, ni Polytechnique. Donc c'est des gens sortis du rang. C'est un milieu populaire, non intellectuel. Et en plus, dans ce IVe siècle, les soldats bougent tout le temps. Ceux qu'on appelle les barbares, c'est les Germains, ils sont partout au port de l'Empire. Les armées n'arrêtent pas de bouger. Donc, il n'y a aucune stabilité familiale. Il est né en Pannonie, c'est l'Empire actuel, parce que son père était en garnison là, puis après, il a vécu à Pavie. On suppose que ses parents étaient originaires d'Italie du Nord, mais on n'en est même pas sûr, si vous voulez, parce qu'on bouge tout le temps. Voilà le milieu dans lequel il est né. Une vie itinérante, pas intellectuelle, pas très riche. C'est un milieu païen. Son père est païen, sa mère est païenne, le milieu est païen. Ce sont des gens qui adorent les idoles, c'est-à-dire les démons.
qui font de la magie, de la sorcellerie, qui participent à des sacrifices animaux, heureusement pas humains. C'est ça le paganisme. Il faut voir que c'est terrible le paganisme. Le paganisme n'a aucune morale. On peut coucher avec qui on veut, on peut faire tout ce qu'on veut. Le père de famille peut tuer son enfant. C'est ça le paganisme. Il ne faut pas oublier tout ce que le Christ nous a apporté. Nous sommes absolument ignorants et ingrats parce que le Christ nous a apporté. Il a changé complètement notre vie. La vie païenne, c'était monstrueux. Tout va à l'encontre du christianisme pour le petit garçon de 10 ans qu'il est. À 10 ans, il quitte la maison de ses parents, il se taille, il fuit à l'église, il dit « je veux être inscrit parmi les catéchumènes ». Mais c'est extraordinaire. Il n'y avait jamais de catéchumènes enfants, il n'y avait que des adultes. On allait s'inscrire, une fois qu'on était bien décidé, on était sur la liste, c'était très sérieux, on était très sérieusement formés pendant souvent des années, très sévèrement pendant tout le carême, il y avait des scrutins, ces espèces d'examens, vérifie si vous êtes chrétien. C'était très très dur hein, d'être catéchumène. C'était que les adultes. C'était rarissime. Mais le petit garçon de 10 ans, il va contre la vie de ses parents. Eh bien, cela, tout cela est venu de lui-même, contre son milieu, contre son monde. C'est son choix personnel. C'était un choix héroïque. Ça, c'est très intéressant pour nous. Il n'y a aucune situation sur Terre qui nous empêche d'être chrétien. Aucune. Sauf quand moi, je suis gravement pécheur. Oui, ça, c'est vrai, ça m'empêche. Mais il n'y a aucune situation extérieure. Il n'y a aucun contexte. Vous vous souvenez que Marx, il a dit, l'homme n'est rien. Il n'est que le produit du contexte. C'est faux. C'est faux philosophiquement, c'est faux théologiquement. La personne est libre. Même dans un camp de concentration, les gens se sont conduits saintement. La personne est libre. Même sous la torture, les chrétiens n'ont pas régné le Christ. La personne est libre. Elle n'est pas le fruit du contexte. Voilà ce petit garçon qui dit « je veux devenir chrétien » contre l'avis de papa-maman. Sur ce plan, là, je dis sur ce plan, il n'y a ni chance ni malchance. Il n'y a que ma responsabilité personnelle. Dans le Christ, au jour de mon jugement, de notre jugement, il dit à chacun de nous, je t'ai donné ma grâce, qu'est-ce que tu en as fait? Tu es responsable. Je t'ai donné mon image, mon semblant. Tu as fait quoi? La grâce, c'est ça. Je suis responsable. Mais, il y a un mais dans ce que je vous dis. Il n'y a ni chance ni malchance. Mais lorsque le Saint-Esprit se manifeste à nous, lorsqu'il frappe à la porte, il faut l'écouter. Et il faut lui obéir. Ça, c'est ma responsabilité personnelle. Personne ne peut tourner son cœur vers Dieu si Dieu ne vient en lui et s'il ne lui dit « Je suis là ». Il faut écouter. Et lorsqu'on est écouté, il faut faire. Il faut se précipiter au moment où Dieu nous visite. Et il ne faut pas rater sa rencontre avec Dieu. Vous savez, c'est comme un amour. On rêve toute sa vie de la belle. Puis un jour, on a un rendez-vous, il y a une rencontre, puis on le rate. On rate tout. C'est pareil avec Dieu. Il ne faut pas rater notre rencontre avec Dieu. Hélas, beaucoup le ratent. Parce que peut-être ça ne se reproduira pas. Ensuite, il a été obligé de servir dans l'armée. Vous savez, le 4e siècle, c'est épouvantable. Il n'y a qu'une chose, l'armée. Parce que l'Empire risque de s'effondrer. Il n'y a que ça. Les bons empereurs sont des soldats, les autres nuls. Il n'y a que l'armée qui compte. Donc l'obsession de l'Empire, c'est l'armée, c'est des soldats. Les lois sont très douloureuses. Les fils de soldats doivent devenir soldats. Petit fils de vétéran, tu dois 25 ans à l'État comme soldat. 25 ans, c'est pas le service militaire qu'on avait autrefois. 25 ans. C'est-à-dire un quart de la vie. À l'époque, non, c'est la moitié de la vie. On meurt à 50 ans à cette époque-là. Et Martin s'enfuit de la maison à 15 ans. Son père va le faire chercher par les troupes et le livre aux autorités. Parce que si le père ne livrait pas le fils, c'était lui qui était en prison. Les lois étaient très dures. On n'avait pas le choix. Donc il est livré par son père aux autorités. 25 ans de vie de soldat. Contrairement à ce que dit gentiment Sulpice Severe, il a un peu triché parce que, comme c'était très mal vu le métier de soldat, il a marqué 2 ans dans la vie de Saint-Martin. C'est 20 ans. Il s'est trompé. Les historiens ont vu que c'était pour ne pas effaroucher les gens.
Il a servi pendant 25 ans.
Être soldat, c'est extrêmement dur. De tout temps.
Mais dans l'Antiquité, c'est infiniment plus dur.
C'est un métier dangereux, on risque sa vie.
On compense par le vin et les boissons fortes, parce qu'on risque sa vie, parce que sinon on n'ira pas.
On bouge tout le temps, on ne peut pas avoir de vie de famille, alors il y a les femmes.
Les esclaves, les prostituées, il y a toute une cohorte de gens qui suivent les armées. Chaque soldat, il a plusieurs esclaves qui lui préparent sa nourriture, qui lui lavent son linge, enfin, qui font tout si vous voulez. Alors,
c'est ça être soldat. Et puis un soldat, c'est amené à commettre des violences.
Évidemment, à tuer dans le combat, mais pas seulement cela, c'est aussi molester les gens que l'empereur en exige.
C'est aussi les pillages.
C'est très très courant les pillages. On prend une ville, on pille tout, les viols. On emmène les gens en esclavage. On ne se rend plus compte maintenant de ce qu'était la vie à cette époque. C'était des choses terribles.
C'est ça être soldat. Eh bien, Saint-Martin, là, dans ce cadre-là,
il va se conduire chrétiennement. Chrétiennement. Ce qui est un miracle, c'est complètement héroïque.
Il ne buvait pas, ne couchait pas, évitait toute action dommageable pour autrui, comme il était officier dans la garde impériale. Il donne des ordres, mais il ne fait pas par lui-même, heureusement.
C'eût été plus difficile certainement comme simple soldat.
Et il n'avait qu'un seul esclave,
c'était la règle. Et il servait son esclave, il nettoyait ses chaussures, il le servait à table. Puis tout le monde était en admiration devant lui. Là, les gens ne ricanaient pas. Tout le monde disait ce type est extraordinaire. Son officier supérieur, le tribun, était devenu son ami. Et il lui a dit, je vais devenir chrétien.
Rien que de voir Martin.
Je deviendrai chrétien. Ça, on attendait longtemps à l'époque. On attendait à la fin de la vie, parce que c'était quand même plus difficile le christianisme que le paganisme.
C'était tout à fait héroïque ce qu'il faisait. C'était le premier point que je voulais souligner. Il n'a pas eu de chance.
Mais il a voulu devenir chrétien.
Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que c'est un homme tout à fait ordinaire. Parce que les saints, on se dit, ils sont formidables, c'est comme des magiciens. Claque dans leurs doigts, c'est formidable.
Ils guérissent les malades, ils ressuscitent les morts, ils marchent sur les eaux.
Et c'est complètement idiot de voir ça de cette façon-là. Ça ne correspond absolument pas du tout à Martin. Martin était un homme ordinaire, comme tout le monde. Il était habillé très modestement. Les évêques dans les conciles le méprisaient.
Tu disais, qu'est-ce que c'est que ce souillon qui est vêtu comme un paysan?
T'es vêtu très simplement, très pauvrement. C'était un homme qui avait une vie très très ascétique. Mais il était vêtu d'une façon ordinaire. Je voudrais souligner, parce qu'on le voit très clairement dans sa vie, dont j'ai relu une partie hier. Il est très simple. Il est d'un abord extrêmement facile, il est agréable. Parfois il fait des bons mots, ça n'a aucun humour. Si pas une ascète grincheux dans son coin qui regarde un peu du haut de son ascèse, mais pas du tout. Il est accueillant, il est compréhensif pour les gens, il est bienveillant, il est compatissant. Il a une patience extraordinaire. Vous reconnaissez qui, le Christ? Vous avez vu comment il est Seigneur?
Il n'est pas du tout comme sont la plupart des ecclésiastiques, même certains ascètes.
Vous avez vu comment il est accueillant? Il est bon, il est généreux, mais il dit la vérité.
Martin aussi dit la vérité.
Mais il est très facile d'accès. Quand vous voyez des patriarches, des papes, des machins, des trucs, c'est des gens qui n'osent même pas s'approcher.
C'est tellement beau, tellement extraordinaire. On n'ose pas les toucher, on ne peut même pas les approcher.
Et parfois même les ecclésiastiques, les grands ascètes sont un petit peu comme ça.
Bon. Mais pas du tout. C'est un homme, on va avec.
On peut lui parler de tout. Et il écoute, il est bienveillant, il est bon. Lorsqu'il va partir de son monastère pour une affaire spirituelle, bien entendu, quand il a fondé les Bugets, il y a une chose très belle au début. Il y a un jeune esclave qui avait fui, s'était réfugié au Liguget, et il voulait devenir moine, il était païen. Et il tombe gravement malade, puis il meurt. Alors on fait prévenir Martin, et il rentre en pleurant. Il dit, je n'étais pas là.
Et il le ressuscite.
Mais il rentre en pleurant. C'est un homme qui a un cœur extraordinaire. Il avait une patience extraordinaire. Son archidiacre le rabrouait tout le temps pour sa montée. Il disait, t'es trop bon.
Tu fais trop de temps. Il n'arrêtait pas d'enquiquiner. insupportable. Il avait un disciple qui s'appelait Brice, qui était odieux avec lui. Et vous savez ce que Saint-Martin disait? Il avait de l'humour quand même. Il disait, le Christ a supporté Judas, je peux bien supporter Brice. Il faut le faire quand même. Alors ce gars-là, il est devenu saint. Hein. Bon, vous voyez, mais ça a porté du fruit. Mais c'était fort hein, de dire ça. Mais vous savez, pour un grand personnage, un évêque au 4e siècle, un très grand personnage, mais de se faire abreuver comme ça, secouer. Vous voyez, le jour où il y a eu ce miracle merveilleux, il a célébré les mystères, et au moment de l'épiclèse, comme ça l'a fait tout à l'heure, il y a un globe de feu qui est descendu sur l'autel. Le Saint-Esprit a consacré directement les dons. Il y a quelques personnes saintes qui ont eu le bonheur de voir ça. Juste avant la liturgie, il y a un pauvre qui était à moitié nu, qui réclamait un vêtement. Il l'a envoyé vers son archidiacre. Puis l'archidiacre qui s'en fichait, il a laissé tomber. Alors, Martin est en train de se préparer dans la sacristie, puis le pauvre lui dit, ouais, on ne s'occupe pas de moi. Martin est en vêtement liturgique. Il n'a en dessous qu'un simple vêtement. Il retire cette tunique par en dessous, c'est une tunique à la romaine, donc si vous voulez, il n'y a pas de manche. Puis il le donne au pauvre. Donc il était tout nu sur son vêtement. Puis personne n'a rien vu, il n'a pas disputé son miracle. Mais après, cet esprit est descendu. Il avait ça sur lui. C'est quand même tout à fait extraordinaire, la patience qu'il avait. C'est une patience qui était comme celle de Dieu. Rien ne le distinguait des autres hommes. Je voudrais que vous soyez convaincus de cela, qu'il n'a pas d'apparence extérieure. Sa grandeur et sa beauté sont purement intérieures. Il était bon, mais il avait la force de caractère. Il a su dire non même à des empereurs. C'est fort. Il y a des gens qui peuvent avoir l'air de des grands personnages, puis devant des plus grands qu'eux, ils n'oseront pas. Ézéchiel n'a pas peur devant Satan. On a laissé dans sa vita un tout petit élément de son combat avec Satan. Que fais-tu là, brute sanglante? Ça, c'est beau. Hein? Le démon, c'est pas romantique. Le démon avait tué un des ouvriers du monastère, un paysan du coin. Le démon avait rendu fou un bœuf qui avait donné un coup de corne dans le ventre. L'homme était mort. Et le démon, après, il a dit à Martin, t'as vu, je l'ai eu. Brute sanglante. Il sait de quoi il parle, Martin. Le démon lui a dit, t'as vu celui-là, je l'ai tué. Que fais-tu là, brute sanglante? Tu ne trouveras rien. C'est fort, hein. Lorsqu'il a traversé les Alpes, au moment de l'exil de Saint-Hilaire de Poitiers, où il a voulu aller à Poitiers, il a su qu'il avait été en exil, le Seigneur lui a dit, il faut que tu ailles vers tes parents, il faut les convertir. Il a traversé l'Italie, il a traversé les Alpes, et le démon lui est apparu sous la forme humaine. Il lui a dit, qui es-tu? Il a dit, je suis chrétien. Et où vas-tu? Je vais où le Seigneur ne veut mieux pas. Et après, le démon s'est dévoilé. Il lui dit, Martin, tu me trouveras toujours sur ta route. Puis, après, c'est parti en fumée. Donc, oui, il était bon, il était bienveillant. Mais il savait dire la vérité. Il avait conscience de la vérité dogmatique. Quand il était en Italie du Nord, il était persécuté par les Ariens qui étaient des hérétiques. Il était flagellé. Il a dû s'enfuir de Milan. Il était persécuté par l'évêque Arien pour son. Oui, il est bienveillant, mais exigeant au plan de la vérité. Ayant du caractère, quand il a été libéré par l'empereur Julien, par le César Julien, il était libéré de ses obligations militaires, sa première démarche, c'était d'aller vers le plus grand théologien orthodoxe de la Gaule. C'était Hilaire de Poitiers. Il n'a pas dit, oh oui, il suffit d'être un homme de prière, le reste, c'est pas important. Non, un homme de prière et la vérité, il faut les deux. Je ne sais pas comment terminer, parce que j'étais tellement dans cette admiration que j'ai pour cet homme, mais ce que je veux seulement souligner, que ce que nous appelons la sainteté n'est pas nécessairement visible extérieurement. On peut rencontrer dans sa vie des gens qui sont des saints, mais ça ne se voit pas. Dieu seul le sait, et à lui sa gloire pour des siècles et des siècles.